Je voudrais juste vous dire, voilà, on est quelquefois dans la nécessité, comme l'a dit tout à l'heure Jérémy, de se présenter et de dire qui nous sommes. Et on va décliner un certain nombre d'adjectifs, en tout cas de mots pour se présenter. Ce n'est pas forcément facile, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas des gens fanatiques, obtus, qui sommes renfermés sous nous-mêmes. Nous sommes plutôt des gens qui essayons d'aller vers les autres et leur expliquer ce que nous croyons. Nous ne sommes pas des gens illuminés qui se réfugient parce que nous avons plein de problèmes dans notre vie, dans une autre réalité qui n'a rien à voir avec la vie que les autres vivent, non. Nous ne sommes pas non plus des gens orgueilleux. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, ils vous disent « mais toi, tu dis que tu as la vie éternelle, tu es orgueilleux ou quoi ?» Ça nous arrive d'avoir en face de nous des gens qui pensent comme cela, ou « pourquoi tu me donnes des leçons hein, tu es meilleur que les autres ?» Non. Nous sommes, comme la Bible le dit, nous sommes des disciples de Christ. Des gens qui ont répondu à cet appel, hein, aller de fait de toutes les nations des disciples, et nous sommes de ces disciples qui ont compris que le Christ est venu pour nous sauver, pour faire de nous ses enfants, pour nous réconcilier avec Dieu, pour faire des enfants de Dieu. Et nous voulons, encore une fois, être des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui conservent sa parole, qui conservent la parole de Dieu et qui la transmettent aux autres, qui, comme ça a été dit tout à l'heure, la transmettent aux autres. Alors, on dit qu'on est chrétien. Chrétien, oui, ça vient de la Bible. Dans la Bible, il est déjà utilisé. Premièrement, ça a été plutôt un espèce de sobriquet. Hein. Oh, toi, t'es un chrétien, t'es un petit Christ. Et puis après, c'est devenu une appellation. Dans 1 Pierre, elle est utilisée, vous, les chrétiens, de... Voilà, c'est devenu un nom qu'on nous donne. Christ ne disait pas qu'il était chrétien. Mais voilà, on nous dit qu'on est chrétien en rapport évidemment avec Christ, avec le fait que nous sommes disciples du Christ. On dit de nous aussi, peut-être que vous l'avez entendu, hein, vous êtes des protestants. Alors, tous les Français sont des protestants. Non, nous sommes des protestants et là c'est en raccord avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a un groupe de personnes qui, en lisant la Bible, ont compris que ça n'avait rien à voir avec ce que proposait l'Église romaine d'alors et les ordonnances, etc., qu'elle donnait. Et donc, ils ont préféré revenir à la Bible et ils ont découvert la Bible à nouveau. Et ils ont lu la Bible et ils se sont dit, il faut qu'on observe ce que la Bible nous dit et non pas les traditions des hommes. Et ils ont été qualifiés après de protestants. On pourrait parler de réformés, on pourrait parler aussi d'anabaptistes, etc., etc. Donc, on nous dit protestants. Et des fois, on se présente quelquefois comme ça, hein, c'est plus simple, parce que c'est un mot un peu plus neutre. On dit aussi des fois qu'on est évangélique. Ah. Donc évangélique, qu'est-ce que ça veut dire ? Des gens qui mettent au cœur de leur vie l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bon, alors évidemment, on n'aime pas trop être associé avec les mauvais évangéliques, parce que des fois, dans ce mot-là, il y a tout un tas de choses qui sont associés, mais nous sommes des gens qui voulons mettre au centre de nos vies l'évangile de Christ, au centre de notre Église aussi l'évangile de Christ. On se dit baptiste, c'est marqué sur notre fronton, n'est-ce pas ? Alors baptiste, c'est par rapport aussi encore à l'histoire. Il y a eu en Europe des réformés, il y a eu des gens qui ont réformé, qui sont sortis de l'Église catholique pour suivre la Bible et qui, eux, on se sont dit, non, on veut vraiment être dans une lecture plus fondamentale des Écritures. On ne veut pas dire que ça dit ceci. Non, qu'est-ce que le texte dit ? Et ces baptistes-là se sont attachés justement à cela en disant bon, on veut véritablement faire honneur à la parole de Dieu aussi étroitement que possible et que la Bible nous le dit par respect pour la parole de Dieu. C'est peut-être des mots que vous avez entendus, n'est-ce pas ? Voilà. Quand on ajoute tous ces adjectifs, on est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ça fait bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est ? Est-ce que ça a un sens d'ajouter tout ça ? Alors, c'est un petit peu quand on veut décliner notre identité. Mais quand on lit la parole de Dieu, il y a un autre mot, il y a une autre expression qui revient bien avant toutes les autres. Quand on lit la parole de Dieu, on y trouve une expression pour qualifier, pour définir ce que c'est un chrétien, un enfant de Dieu. Et je vous propose de la lire avec moi au verset 44 du chapitre 13, donc de Matthieu. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Il l'a acheté. Je m'arrête là dans la lecture de ce matin. Ce texte nous parle du royaume de Dieu et nous explique de façon imagée ce qu'est le royaume de Dieu. Et premièrement, il nous faut noter le fait que dans ce texte, le royaume de Dieu, c'est une découverte. Quelqu'un qui découvre un trésor, quelqu'un qui découvre une perle, mais d'un grand prix. Une découverte de quelque chose de si précieux, si important, de si étonnant, que cela pousse à ne pas réfléchir, mais à agir tout de suite pour ne pas laisser passer cette découverte. Quelque chose qui va finalement dire, attends, là, hop, top, j'arrête tout, je m'occupe de ça parce que ça, c'est, je ne laisse pas passer d'à côté de moi. Un trésor dans un champ qui est à vendre. Il y a un trésor là. Ce trésor-là, je ne veux pas le laisser passer. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé un trésor. Très peu de personnes ont trouvé des trésors. Hein, mais là, on se dit, ben oui, attendez, moi, je vais me taire. Bon, en France, ce n'est pas possible, hein, parce que ce n'est pas comme ça que la législation fonctionne. Mais je me tais, je dis rien. Les gens vont se dire, mais pourquoi il va acheter ce champ-là ? Pas grave. Je vends tout ce que j'ai, j'achète ce champ parce que je sais qu'il y a dedans le trésor, n'est-ce pas ? Une perle d'un très grand prix, c'est là aussi quelque chose d'étonnant. C'est, voilà, on est dans ce commerce de la perle, et les perles, c'est magnifique, hein. Et là, on voit la perle que jamais personne n'a trouvée. La pépite, quoi, la truc, vraiment incroyable. Évidemment, on n'est plus dans le commerce. Là, on est plutôt en train de dépenser tout son argent pour la trouver parce que c'est la perle qu'il faut que l'on ait. La Bible nous explique dans ce texte qu'avant toute chose, la vie chrétienne, c'est un élan du cœur, un élan entier, un désir qui pousse à ne pas laisser passer une occasion, une opportunité incroyable. Je ne veux pas laisser passer ça de côté. Je ne sais pas ce que vous êtes capable de mettre à la place de ce trésor ou de cette perle comme image. Peut-être vous allez dire c'est cette fille. Peut-être. Peut-être vous allez dire c'est cette voiture, j'en sais rien. Mais c'est l'image qui est donnée dans ce texte-là en prenant ces deux exemples, pour dire, voilà, il y a quelque chose qui est d'une valeur telle que ça va me pousser à y aller de tout mon cœur entier. Et dans le texte, quand il est parlé du trésor, il est dit que dans sa joie, il va et il vend tout ce qu'il possède. C'est pas, oh là là, je vais devoir tout vendre, ça va être compliqué, j'ai pas envie de me séparer. Non, c'est dans sa joie, je suis content, je vends tout ce que j'ai, j'en ai rien à faire de ce que j'ai, je vends tout et avec joie, je vais aller acheter ce champ, acheter cette perle, comme presque la quête d'une vie, le loto quoi, mais pas les 2 millions, hein. Le gros lot, hein, 70 millions, là, il y a eu quelque chose comme ça, je crois, ces derniers temps. On se dit, ah, ouais, mais non, mais là, il faut, hein. Je ne sais pas si vous êtes dans votre travail autour de gens qui disent, ah, mais là, il y a 70 millions, il faut que je joue, hein. Non, mais c'est ça que nous dit ce texte. Je ne veux pas passer à côté, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Et il est hors de question que ça soit quelqu'un d'autre. On comprend bien ce que ça veut dire. Je suis prêt à tout, je vends tout, je laisse tout pour ça. Mais je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que ça ait tant de valeur que nous ayons envie de tout céder, de tout donner ? Quelle est la valeur de cette chose-là ? Quelle est la valeur pour que vous et moi, nous ayons eu envie de dire « Écoute, c'est bon, ça passe en premier, avant tout ». Quelle est cette valeur? Vous savez, il y a des gens qui sont très riches par la naissance. Et depuis leur naissance, ils ont tout à disposition, ils n'ont manqué de rien, sans effort probablement. Voilà, c'est comme ça, hein, je n'ai pas d'état d'âme vis-à-vis de ça. Et puis, quelquefois, si on allait en vacances à Tahiti cette fois-ci, ah non, Tahiti encore. Ah, c'est surcoté Tahiti, je trouve. On va peut-être aller autre part, aux Bahamas. Ah mais non, on y est allé l'année dernière. Et non, excusez-moi, est-ce que je peux avoir votre billet? Et on ne se rend pas compte. Parce que quelquefois, on est dans ce bain du christianisme, et on ne se rend pas compte de la valeur des choses. Les chrétiens, ils perdent un peu la valeur des choses. Ils vont dire, la Bible, c'est intéressant, la foi chrétienne, ouais, c'est pas mal, c'est une bonne façon d'éduquer nos enfants. Les chrétiens, la famille chrétienne, il y en a un peu trop quand même de chrétiens. Elle est un peu trop grande, cette famille, quand même. Puis il y en a, La relation avec Dieu, c'est un peu surcoté, non? Peut-être. Demain, j'aurai du temps avec lui. On va, pour certains chrétiens, même inventer des expériences. Alors moi, j'ai vécu un truc fabuleux avec le Seigneur, une illumination, machin chouette, etc. Ah oui, d'accord. Je ne vais pas aller dans la singerie parce que vous allez, c'est pas sage. Des extases, des trucs comme ça, ou des ambiances. Ah, c'est super bon ici dans cette église. Oh là là, il y a de l'ambiance là. Oh là là, il y a des flashs, il y a tout un tas de trucs. Et ça, c'est mieux que ce que le Seigneur a proposé, n'est-ce pas? C'est ça qui va vous faire venir. Qu'est-ce qui vous pousserait à tout vendre pour acheter? Jésus déclare que le royaume de Dieu est comparable à une personne qui a trouvé ce trésor ou une grande pierre. Il nous dit, là il y a la motivation la plus extrême, l'enthousiasme, l'exclusivité qui se fait, la passion qui se met en route, l'attachement que ça peut avoir pour nos yeux, l'attrait, je la veux, je le veux, le don total, le prix total, l'engagement, le sacrifice total. Qu'est-ce qui fait que ce royaume suscite autant d'enthousiasme, d'absolu? Le royaume des cieux est comme. Qu'est-ce qui fait qu'il est si attrayant? Pourquoi ça a tant de prix? Qu'est-ce qui fait qu'il a tant de prix? Je le redis en tournant la question dans plusieurs sens. Mais la réponse est dans le titre. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne. C'est ça, la valeur qui n'a pas de prix, qui est supérieure et qui n'a pas de comparaison possible. C'est pas parce que les chrétiens sont des gens géniaux, c'est pas parce que ils sont plus sympas, on mange bien, ils sont cool. C'est une religion moins contraignante que les autres. Ce qui rend cette valeur, c'est que Dieu règne. Et quand Dieu règne, eh bien, ça n'a plus rien à voir. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui ont été sous le règne de l'alcool, de la drogue, peut-être sous le règne de pensées bizarres, obscures. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été sous le règne de la réussite professionnelle et d'écraser les autres, etc. Je ne sais pas d'où vous venez tous. Enfin, j'en connais beaucoup d'entre vous et je pourrais le dire, mais quand c'est Dieu qui règne, c'est merveilleux, c'est incroyable, ça n'a rien à voir. On n'est plus sous le règne de qui? Du péché. Notre Dieu, quand on le connaît, quand on le découvre dans la parole de Dieu, quand on comprend ses plans, quand on comprend ses projets, quand on connaît l'engagement de Dieu, qui, je le disais tout à l'heure à la classe du dimanche, quand l'homme a choisi de s'éloigner, il aurait pu dire « c'est bon, moi je laisse tomber et je pars ». Non, il est resté, il a mis les mains dans le cambouis et il a payé le prix fort. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui règne. C'est ce Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la terre entière, qui a créé toute chose, la beauté de la création, etc. C'est ce Dieu qui règne. C'est quand on regarde à la croix, on se dit, mais oui, il a payé le prix pour moi. Il nous propose le salut éternel. Quand on lit dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit de Dieu, quand il nous dit que c'est un règne de paix, un règne de joie, etc., on dit oui, je veux que Dieu règne. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le règne du Fils de son amour, Colossiens 1, 13. C'est l'endroit où Dieu règne. Et c'est ça qui rend cela sa valeur. J'ai dit oui quand j'étais enfant. Je savais pas tout à fait, j'avais pas tout à fait compris tout, mais j'ai dit un grand oui, même quand j'étais enfant. J'ai dit oui. Et je me suis dit, c'est à peine croyable, quelqu'un qui ne me connaît pas et qui est prêt à mourir pour moi parce qu'il m'aime. Et j'ai dit oui, simplement, mais ça m'a semblé une évidence. J'ai dit oui à quoi ? À l'amour de Dieu. Je ne me suis pas posé de questions sur le prix à payer. Je lui ai dit, et je ne me fais pas un exemple, c'est juste mon témoignage, je me dis simplement, ben oui, ça me semble une évidence. Voilà, merci Seigneur. Et voilà, on y va. Et je ne sais pas de quoi sera faite. Mais je sais que j'ai dit oui, je prends. Ça, je ne laisse pas passer, je prends. Et je le prends pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Quand j'ai découvert cette proposition de Christ, de me dire, mais je t'aime. Je vais mourir pour toi. Je suis mort pour toi. Et je veux que Dieu règne. Eh bien, je ne me suis pas embarrassé des questions. Alors, laissez venir à moi les petits-enfants. Hein. On est plus léger quand on est enfant, hein, n'est-ce pas ? Et merci Seigneur, parce qu'il est important qu'on annonce l'évangile sans les contraindre aux enfants pour qu'ils puissent ne pas se dire « Oh là là, qu'est-ce que ça va me coûter ? Oh là là, ça va être dur ? Oh là là, ceci ? Oh là là, souvent ?» Et je me rappelle quelques années d'après, quand il s'agissait de faire son orientation après le bac, il y en a plusieurs qui ont fait l'orientation, je me retrouve face à face avec mon prof de physique, j'aimais beaucoup la physique, c'était un domaine où j'étais assez bon, dans la rue, et mon prof de physique il me dit « Alors, qu'est-ce que tu as choisi ?» Et je lui ai dit « Je vais faire l'école biblique. » Il m'a regardé, il n'était pas content. Mais je me suis fait presque gronder sur le trottoir. « Mais non, mais on n'a pas besoin de pasteurs, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin des chercheurs, on a besoin des physiciens, qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude ?» Il n'était pas content. Mais dans ma tête, je me dis « Mais oui, mais il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent, éternellement. » Et pour moi, j'étais face à un homme qui ne comprenait pas la valeur de l'Évangile. Parce que c'est normal. Dans sa logique à lui, eh bien, il ne s'agissait pas de quelque chose qui a de la valeur. Il ne voyait pas de quoi il était question. Il ne savait pas qu'il y avait un trésor dans le champ. Et il n'a pas, alors à l'époque, peut-être aujourd'hui c'est autre chose, saisi l'occasion de vendre tout ce qu'il avait pour le saisir. Jean-Claude, quel enthousiasme, n'est-ce pas, ce matin. C'est quoi la proposition du message ? Je sais qu'il y en a qui prennent des notes. C'est quoi la proposition du message ? C'est important de s'encourager. C'est quoi la phrase à retenir ? Quelle est la valeur du règne de Dieu dans ta vie, pour toi ? Est-ce que ça a de la valeur ? Je suis sûr qu'au moment où vous avez dit oui, vous avez accordé la valeur qu'il lui fallait. Accordé à cela. Vous avez dit non, là je ne laisse pas passer. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, à nos yeux de chrétien, quelle est la valeur ? Il ne s'agit pas de focaliser, vous savez, comme certains le font, sur il faut tout donner pour pouvoir acquérir. Non, là c'est une image, on n'a pas à payer pour cela, n'est-ce pas ? On n'achète pas Dieu, on ne peut ni par l'argent ou l'or faire quoi que ce soit. Mais la question que l'on doit se poser à la lecture de ce texte, c'est quelle est la valeur du règne de Christ, de Dieu, dans ma vie ? Le fait que Dieu règne dans ma vie, est-ce que c'est précieux pour moi ? parce que je préfère lui soumettre mes pensées. Parce que mes pensées ne sont pas ses pensées. Parce que je préfère lui soumettre mes émotions. Parce que mes émotions ne sont pas ses émotions. Parce que la façon dont je me regarde, moi, ce n'est pas la façon dont il me regarde, lui. Vous comprenez ? C'est important de réaliser que le règne de Dieu n'a rien à voir avec l'image que l'on se fait nous-mêmes de la vie. Les perspectives que donne un humain à sa vie, c'est pas ça. Dieu, il nous voit autrement. Il voit en chacun d'entre nous des enfants tant aimés, des enfants qu'il veut modeler, qu'il veut utiliser, qu'il veut faire grandir pour se rendre gloire à lui-même. Souvent, quand on parle de la foi, et c'est pas faux, on parle de conversion, d'adhésion. Prenons cette expression de Christ. C'est le royaume de Dieu dans ma vie. Et essayons de nous poser la question. Si Dieu règne dans ma vie, il règne dans mes pensées, je le disais, dans mes émotions, il règne aussi dans mes activités, il règne dans, voilà, de ce que je peux dire, dans ma façon de parler. Il doit régner aussi dans mon comportement, avec ma femme, avec mes enfants. Il doit régner à mon travail. Mais c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Comment on peut se lever le matin et retourner au travail ? Des fois, on n'a pas envie. Bon, on sait qu'on gagne de l'argent pour ça et on en a besoin. Mais retourner en disant, bon, Seigneur, cette journée, c'est une journée encore que tu vas utiliser pour ta gloire. Comment on peut ? Parce qu'on sait que c'est Dieu qui règne. Et on se dit, tiens, est-ce que le Seigneur ne va pas utiliser cette journée pour une façon, trouver une solution, résoudre un problème, et peut-être aider, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine social, médical, parmi nous. Voilà, je vais pouvoir faire ce que le Seigneur me demande de faire, d'aimer mon prochain, de l'aider. Et c'est comme ça qu'on se lève le matin en disant, mais Seigneur, tu règnes. Tu veux régner. Tu vas régner. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Il n'est plus à côté de vous, il sera en vous. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait que Dieu veut régner dans ta vie ? J'ai mis un petit mot, les Français, nous, on décapite les rois. On ne les aime pas. Et quand on dit même Jésus est roi, on préfère la révolution. Vous savez, un peu cette anarchie, il se passe n'importe quoi. Et on est content parce qu'on se dit, il y a du mouvement, il y a plein de trucs, voilà. C'est important pour nous de comprendre que quand Dieu règne dans une vie, c'est la plus merveilleuse des choses qui puissent arriver. Règne de victoire. Et j'aimerais vous proposer encore un texte ce matin et je terminerai sur ce texte-là parce que sinon je vais prendre plus du temps qui m'est imparti. En Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, versets 13 à 15. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire un diapo avec le Togo et tout ça. On est un peu tous débordés, je suis désolé. J'aurais voulu le faire, mais je suis un peu, on va dire, à la limite de ce que je peux faire. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, la peine capitale. Le mal qui engendre la peine capitale. Mort par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, le salut capital, le salut en Christ, il vous a rendu à la vie, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Christ a effacé l'acte rédigé contre nous. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Nous avions une liste de choses que Dieu n'accepte pas dans notre vie. Il les a effacées. Toutes ces dispositions contraires d'accusation, de ceci, de cela, il l'a supprimé en le clouant à la croix, à la croix, tout cela qui nous était reproché, ça a été cloué. Et nous sommes là, et on continue. Le mal originel qui nous rend pécheurs, et ce péché qui nous condamne, a été crucifié, cet acte a été crucifié, et on continue. Et il a dépouillé, quoi ? Tous les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Le mal capital, la mort qui attendait chaque homme, eh bien, la réponse, c'est la vie en Christ. Le mal personnel, la condamnation que vous et moi nous portons sur notre tête du fait de notre nature pécheresse, de nos péchés, il l'a effacé. Et l'influence qui coule d'avoir ouvert au mal le monde, c'est-à-dire ces autorités, ces puissances, le monde en parle, la Bible en parle, qui peuvent influencer, qui peuvent venir voilà, embêter, etc. Il les a, quoi ? Il est dit, dépouillés de toute principauté et de tout pouvoir. Et il les a publiquement livrés en spectacle. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Nous sommes là face à trois problèmes et le Seigneur, par son règne, les a résolus. Vous allez me dire, mais Jean-Claude, qu'est-ce que tu nous fais ce matin ? Tu es à côté de la vraie vie, hein, c'est pas si simple la vie chrétienne. Non, c'est pas si simple. C'est vrai que c'est pas si simple et je suis d'accord avec vous. Mais quand le Seigneur y règne dans nos vies, par la foi, eh bien, nous pouvons nous approcher de lui, lui présenter nos vies, le solliciter, et nous pouvons voir son règne, voir son autorité. Nous pouvons voir aussi son amour qui se déverse sur nous. C'est un amour qui est important, n'est-ce pas ? Pour nous, nous en avons besoin de cet amour pour aller de l'avant. En lisant ces paraboles, je me suis dit, c'est marrant, enfin, c'est étonnant. Parce qu'il est dit que le royaume, c'est comme si moi, je devais tout pour trouver un trésor. Et je me dis, mais Dieu, il a tout payé. Pour qui ? Pour moi. Le royaume de Dieu, c'est que Dieu a tout payé. Il a tout payé pour moi, pour toi. Et on renverse la situation, n'est-ce pas ? C'est incroyable et c'est quelque chose qui nous invite à s'encourager les uns les autres. Pas vers des facilités, c'est pas ça dont il est question, mais de tourner les yeux individuellement vers le Seigneur et dire « Seigneur, tu connais ma situation, tu sais ce qui ne marche pas chez moi, tu connais même ma façon, tu vois comment j'ai du mal, Seigneur, je te demande pardon et règne en moi. Règne en moi, règne dans mes pensées, règne dans mes attitudes, règne dans mon cœur, règne, on l'a chanté tout à l'heure, ma force avec mes bras, avec ce que je suis, ce que je fais. Et c'est là que nous trouvons le repos et que nous trouvons la joie. Prions. Éternel notre Dieu, nous venons à toi comme nous sommes. Et Seigneur, nous n'avons pas de prétention, nous n'avons même pas envie, Seigneur, de te dire quoi que ce soit de nous-mêmes, sinon de t'appeler au secours et de te dire règne, Seigneur. Règne dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Règne dans la vie de tes enfants. Et que, Seigneur, nous ayons les yeux ouverts sur la valeur, Seigneur, le prix précieux qui est ton règne dans nos vies. Nous voulons te prier pour que ceux qui, Seigneur, passent par des moments difficiles et qui sont peut-être en lutte avec la vie, avec les difficultés, ceux qui peut-être sont bloqués à certains points de leur vie chrétienne parce qu'il y a des choses qu'ils ont du mal à comprendre, à accepter. Seigneur, nous te prions pour chacun d'eux, pour qu'ils puissent, Seigneur, vraiment lâcher prise et, Seigneur, faire cette prière. Règne en nous, Seigneur, règne en moi. Père éternel, merci pour tout ce que tu as encore prévu pour chacun d'entre nous. Tu vas utiliser les choses folles de ce monde pour confondre les fortes. Et tu vas, Seigneur, montrer encore une fois que nous sommes comme des flambeaux, Seigneur, qui brillons pour porter la parole de vie. Au nom de Jésus-Christ, et que la gloire te soit rendue. Amen.